Alors, bon matin chacun. Ça va bien pour le son? Oui? Bon. Vous savez, c'est toujours un plaisir d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. Je vous invite à tourner dans 1 Jean, s'il vous plaît. Premier chapitre. Et nous allons glaner dans tout cela. Mais j'aimerais, avant d'entrer dans notre sujet spécifique ce matin, vous savez, quelqu'un me dit, mais c'est un drôle de titre, cette affaire-là. Là. Hein? Pourquoi, pour qui, pour quand? Ça peut être n'importe quoi. Moi, il va parler de n'importe quoi, ce gars-là. Là. Mais en fin de compte, je veux rattacher le pour qui, le rattacher à la bonne personne, le pour quand, le rattacher au bon temps, puis le pourquoi, puis le rattacher aux bonnes choses. On est dans un monde de plus en plus spécial, n'est-ce pas? Suivez nouvelles un peu, les genres, gars, filles, là on est rendu que les gens qui sont ni filles ni hommes, il y a 61, si vous regardez sur Google, là, il y a 61 genres qui existent. Il y a les fluides, il y a les lesbiennes, les homosexuels, tout change alentour de nous, n'est-ce pas? Et de plus en plus, la vérité n'existe presque pas, sinon pour la personne elle-même, hein, le relativisme en fin de compte. Le postmodernisme, c'est qu'on définit notre propre vérité. La Bible est extrêmement attaquée, les pensées bibliques sont attaquées, et ce qu'on a dit ici un matin, là, l'avoir dit dans une foule non-chrétienne, on aurait passé pour des fanatiques, dire qu'il n'y a rien qu'un chemin. Voyons donc, rien qu'un chemin, que Jésus est le seul. Et ça, on ne veut pas entendre ça aujourd'hui. On veut entendre aujourd'hui des mensonges qui nous font du bien. La vérité n'est pas vraiment importante. Ce qui est important, c'est que toi, tu as ta vérité, l'autre a sa vérité, l'autre a sa vérité. Donc, tout le monde a leur vérité dans le postmodernisme, mais tout le monde vit selon sa conscience, selon sa définition lui-même du bien et du mal. Et les gens s'en vont dans leur vie, choisissant des avenues, des directions, etc., etc. Et l'Église est plantée en plein milieu d'un monde qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, même qui ne l'acceptent même pas. La semaine passée, j'étais à Québec, puis j'étais en train de parler avec quelqu'un. Puis son argument final, lorsque je présentais des faits de la parole de Dieu, c'était « Pense pas, là, toi, là, que tu as la vérité absolue en toi. » Tu n'as pas la vérité absolue. La vérité, j'ai ma vérité, ma femme a sa vérité, mon voisin a sa vérité, les témoins de Jéhovah ont la vérité, les mormons ont la vérité. Où est la vérité? La vérité, est-ce qu'on l'aime? Et laissez-moi vous dire quelque chose, que dans les derniers temps, on écrit dans la parole que l'amour de la vérité va disparaître. C'est l'amour de la vérité qui disparaît. Donc, vous allez être confronté dans votre vie chrétienne à toutes ces argumentations-là, vous allez être confronté à « t'as ta vérité, j'ai ma vérité », confronté au postmodernisme, au relativisme, tout est selon toi, tu deviens ton propre petit Dieu, où tu décides ce qui est bien, ce qui est mal, tu décides ce qui est important, tu décides la voie que tu vas suivre, et là on dit « tu peux faire ce que tu veux, tu peux être qui tu veux, un homme, une femme, un ci, un cela, et c'est ce qu'on appelle, en fin de compte, hein, une société multi-XXX. Et nous, les chrétiens, on est dans ce milieu des choses, on est dans le milieu de cette culture-là. Quelle époque est-ce qu'on est rendu? Donc, ce matin, j'aimerais partager avec vous sept raisons pour étudier la parole de Dieu. Je vais vous donner 7 raisons pour étudier la parole de Dieu sérieusement. Parce que vous allez être attaqué dans votre foi. Vous allez être ébranlé. Plusieurs parmi nous sont sortis de nous, ils sont retournés dans le monde. Les gens, même je connais des gens qui sont devenus agnostiques, qui étaient chrétiens parmi nous, qui ne croient plus. Et cela, mes amis, il faut réaliser que comme les responsables de l'Assemblée veulent explicitement qu'on soit équipé pour être capable de défendre notre foi puis d'avoir une assurance. 7 raisons pour étudier la Bible. Une des raisons, j'écoutais Marc, lorsque Marc est arrivé avec la méditation, savez-vous, méditer, là, c'est bien. Lire, c'est bien. Vous lisez, mais si on ne comprend pas ce qu'on lit, on va méditer quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est l'étudier, la réfléchir sérieusement, la parole de Dieu. Être équipé. Cette nourriture pour nos âmes quotidiennes, cette nourriture, lorsqu'on la lit, on ne fait pas rien que la lire comme dans l'ancienne religion, on disait le chapelet, puis on le disait 50 fois, puis on avait des indulgences. Ce n'est pas cela, lire la Bible pour lire la Bible. On lit la Bible pour la comprendre. C'est la vérité de la parole de Dieu. La Bible est compréhensible. Et c'est un des arguments, ça, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est que la Bible, ce n'est pas compréhensible du tout. Le monde fait dire ce qu'ils veulent à la Bible. Vous avez entendu ça déjà? Hein? Moi, je l'ai entendu la semaine passée. Il y a deux semaines, c'est-à-dire. Donc, pourquoi étudier la parole de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on est préoccupé ici à l'Assemblée chrétienne du Cap-de-Madeleine à enseigner la Bible, semaine après semaine? Pourquoi est-ce qu'on est préoccupé à avoir des cours comme EBE, avoir des cours durant la semaine ou le dimanche soir? Et pourquoi qu'on est préoccupé par cela? Parce que la parole de Dieu nous dit, en fin de compte, qu'une des responsabilités des responsables, c'est d'équiper les saints, dans Éphésiens 4, équiper les saints pour le service pour Dieu. Parce que vous êtes tous des serviteurs et des servantes de Dieu. Vous avez une foi, et votre foi, elle n'est pas une foi incognito. Vous allez vous prononcer à un moment donné sur des choses. Et votre fond ne sera pas le Journal de Montréal, ce ne sera pas le Doc Mayou, ce ne sera pas un tel ou un tel. Votre fond pour répondre aux gens va être la parole de Dieu. Mais on doit l'étudier. On doit l'étudier, la lire et la méditer. Mais méditer la vérité. Et je vous dis que ça va être difficile pour les chrétiens de témoigner aujourd'hui, de plus en plus difficile à cause de cette philosophie que les gens ont de qu'est-ce qu'est la vérité. Quand Jésus a dit à Pilate, « Je suis la vérité. » Hein? Pilate, il voulait savoir la vérité. Il a dit, « Je suis la vérité. » On n'est pas en train de dire que c'est une religion, la vérité. On n'est pas en train de dire que c'est un système tricoté par les hommes qui est la vérité. On est en train de dire que c'est Jésus-même qui est la vérité. Et cela, c'est important aujourd'hui, parce qu'on dénigre Jésus, on dénigre la Bible, on met en question des pratiques. On met en question tout aujourd'hui. Et c'est pour cela que j'aimerais vous donner 7 raisons pour étudier la parole de Dieu. La première raison, c'est afin que notre joie avec le Père et le Fils soit complète. Avez-vous perdu votre joie dans votre vie chrétienne, vous, déjà? Si vous n'avez pas perdu votre joie encore, ça va arriver dans certaines circonstances. Il arrive des circonstances qu'on perd la joie d'appartenir à Dieu. Puis là, on doit lutter pour cela. La joie d'appartenir à Dieu. Vous savez, c'est la seule joie, à fin de compte, qu'on ne peut pas nous voler. Mais c'est une joie qui peut être attristée. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellé. Donc, à quelque part, on peut attrister le Saint-Esprit et perdre cette joie d'appartenir à Dieu et de vivre pour Dieu. C'est Jésus-Christ notre joie. Une bonne raison pour étudier la parole de Dieu, c'est qu'on apprend à connaître Jésus-Christ. On apprend à connaître, connaître Dieu. On apprend à connaître une manière de vivre qui vient de Dieu. On apprend une communion avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ. On vit dans une communion. Mais comment vivre dans une communion si on n'a pas regardé dans la parole de Dieu ce que Dieu dit à propos de cette communion avec le Père et avec le Fils? Vous savez, des fois on dit, « Ah, il n'y a pas beaucoup de monde qui se lève à la table du Seigneur. » Mes amis, je connais du monde qui ne se lève pas parce qu'ils veulent donner la chance à quelqu'un qui ne se lève pas de se lever. Puis ils prient, puis ils disent, « Seigneur, que les cœurs débordent. » Mais un cœur ne peut pas déborder s'il n'est pas rempli. Un cœur ne peut pas déborder si la joie du Seigneur n'est pas là. La joie d'appartenir à Dieu, la joie d'être un enfant de Dieu, la joie qui va être traduite de différentes manières. Il y en a qui vont peut-être sauter dans les airs. Il y en a qui vont rire jusqu'aux oreilles. Il y en a d'autres qui vont se baisser la tête. Il y en a d'autres, j'en ai vu, moi, qui sont mis à terre, les mains en croix, dans une réunion de prière, naturellement, pas le dimanche matin. Mais voyez-vous, c'est à quelque part, on traduit notre joie d'une manière différente et on propose des manières de produire, hein, d'exprimer notre joie dans le fait qu'on est au Seigneur. Mais on doit étudier la parole de Dieu, on doit lire la parole de Dieu, on doit la méditer. Une des premières raisons. La deuxième raison, Jean va nous dire qu'il nous écrit parce qu'il veut qu'en fin de compte, on ne pêche pas. Facile à dire, hein? Hey, c'est facile, la vie chrétienne, c'est le secret. Pêche plus. Même le péché, là. Si vous témoignez, j'étais encore avec mes contacts au McDo, là. Puis j'étais avec Diane. Diane parlait d'une femme qui était assise là, moi j'étais là. Elle essayait de persuader la femme qu'elle était pécheresse. Je l'écoutais d'une oreille, puis je parlais avec le gars en même temps. Diane, elle pense que je ne suis pas capable de faire ça, mais en tout cas. Mais c'était intéressant de l'entendre, Diane, essayer de persuader la madame qu'elle était pécheresse. Hey! Pas en tout, hein? Non, je ne suis pas une pécheresse. Non, je ne fais pas de péché. Non! Moi, je n'ai pas besoin de ça, je vais aller au ciel quand même. Puis, en tout cas, elle avait des arguments, là. Sa définition du péché, là, c'était tuer, voler, etc. Toutes les grosses affaires. Tu sais, c'était pas le mensonge, c'était pas l'orgueil, c'était rien de ça, là. C'était toutes des grosses affaires. Puis après au moins un gros 30 minutes, là, je vous dis, là, j'ai checké l'heure, là, ça dépassait 30 minutes de parler juste là-dessus. Quand on est parti, moi, puis Diane, il disait, tu veux Diane? Il dit, sa définition du péché n'était pas comme ta définition du péché. Si on n'étudie pas la Bible, on ne sait même pas ce que le mot péché veut dire. Croyez-vous ça? Le mot péché, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Hey, on se fait rire en pleine face quand on dit le mot péché à du monde. Ça va remarquer ça? Hein? Mais si on n'étudie pas la Bible, on ne réfléchit pas à la parole de Dieu ensemble, comment est-ce qu'on va parler de notre Sauveur qui est là pour sauver des pécheurs? Mais là, je fais exprès pour passer ça, parce qu'à chaque fois que je viens en avant, je la passe. Le péché. Regardez bien ce que le mot péché veut dire. Et ça change notre langage quand on témoigne. Premièrement, le péché veut dire manquer le but. Tu manques le but de ta vie. Tu manques le sens de ta vie. C'est ça que ça veut dire en hébreu. Lorsque vous lisez le mot péché dans vos Bibles, là, il y a quatre mots hébreux. Le deuxième, c'est se révolter. C'est que je n'accepte pas ce que Dieu fait. Je n'accepte pas la création de Dieu. Je n'accepte pas que je suis un mâle. Je n'accepte pas que je suis une femelle. Je n'accepte pas que ça, c'est un chien, puis ça, c'est un chat. On va tout changer ça. C'est moi qui définis les genres. C'est moi qui définis la vérité. C'est moi qui définis ce qui est bien, ce qui est mal pour ma vie. C'est ma vie, je vis ma vie, vous avez vécu votre vie, laissez-moi vivre ma vie. Tu entends parler de ça? Hein? Oui, hein? Voilà. Alors, la parole est explicite. On est à contre-courant envers Dieu. Le troisième mot, c'est être tordu. Des fois, quand vous lisez le mot péché dans l'Ancien Testament, c'est être tordu. On est tordu. On n'est pas douette. On est tout croche. Puis, laissez-moi vous dire quelque chose. Être tout croche, ça veut dire que tu ne marches pas douette. C'est ça que ça veut dire. Tu es tout croche aux yeux de Dieu. Et ça, les gens ne veulent pas entendre ça, hein? Hey, tu crochis. Tu crochis vers la droite, tu crochis vers la gauche, tu crochis vers le mensonge, tu crochis vers l'idolâtrie, tu crochis vers l'argent, tu crochis vers ceci ou cela, peu importe, mettez ce que vous voulez. Croche. C'est pas droite. Tu ne pars pas du A à B avec une ligne droite. C'est croche. Le quatrième mot qui est dans la parole, c'est être agité et inquiet. Le mot péché veut dire être agité et inquiet. Agité et inquiet. Vous savez, lorsque vous essayez de persuader quelqu'un qui est pécheur, tu dis, ouais. Pourquoi tu penses que tu es inquiet? Tu es agité? Pourquoi que tu te sens mal à l'aise dans ta peau. C'est le péché. Et dans le Nouveau Testament, on a deux autres qui sont semblables. On a deux. On va arrêter là. Et c'est manquer le but et transgresser, qui est en résumé tout ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Mais regardez bien si vous mettez ces choses ensemble. Nous manquons le but pour lequel nous avons été créés. Nous sommes révoltés contre notre Créateur. Nous avons développé des relations tordues avec notre Créateur et les autres. Et nous sommes devenus des êtres agités et inquiets. Si on met ces quatre définitions-là ensemble, on a un langage qui peut démontrer aux personnes devant nous c'est quoi le péché. Mais si on emploie juste le mot péché, ils ne comprennent pas ce qu'on veut dire. Ils ont leur définition, puis ils ont dit, moi, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je suis une bonne personne, je compte des menteries des fois, mais ça ne compte pas, c'est juste des petites menteries de rien là, qui ne font pas de mal à personne. Donc, le péché tel que je le conçois, là, j'en ai pas, moi. On est dans un monde malade. Un monde qui définit lui-même son péché, qui définit ce qui est bien, ce qui est mal. Et c'est important d'étudier la parole de Dieu pour être capable de bien témoigner le fait que l'homme sans Dieu est perdu pour l'éternité. Que l'homme, s'il ne réalise pas qu'il est pécheur, qu'il manque le but pour lequel il a été créé, s'il ne réalise pas cela, cette personne-là va mourir sans Jésus-Christ, qui est le seul chemin, la vérité et la vie. Et dire, juste dire ça, là, c'est un scandale aujourd'hui. Ils vont probablement prendre un bout de ça, si on met ça sur le YouTube, je ne sais pas trop, et puis ils vont le passer à Radio X. Hey, le gars, écoute le gars, là, il vient de dire qu'il n'y a rien qu'un chemin. Il n'y a rien qu'un chemin, c'est Jésus-Christ. Il vient de dire que tous les autres, c'est des pas bons. Il vient de dire que tous les autres, c'est des menteurs. Il vient de dire que tous les autres n'ont pas la vérité. Voyez-vous l'exclusivité de Jésus-Christ, comment ça tranche? Et soyez prêts à trancher, mes amis, parce qu'on va se faire avoir. Puis on va être obligé de pencher vers un compromis où est-ce qu'on va perdre l'Évangile. L'Évangile doit être affaibli dans tout cela. Une troisième raison pour étudier la parole de Dieu, la lire et la méditer, afin que vous vous aimiez les uns les autres. Bon, ça, c'est facile. Hein? Wow. Je vous le dis, là. Parler du mot « amour », c'est le mot le plus difficile qu'il n'y a pas dans la Bible. Vous ne le croirez pas, hein? Parce qu'on entend des chansons en radio qui parlent de l'amour tout le temps. Vous remarquez ça? L'amour, l'amour. Tout le monde chante l'amour. Tout le monde parle de l'amour. On en parle tellement là, qu'on est désinformé sur l'amour. On ne sait même plus ce que c'est l'amour. Et là, mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Si on n'étudie pas la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu dit, c'est quoi l'amour? Réellement. C'est qu'est-ce que ça veut dire s'aimer les uns les autres? Qu'est-ce que ça fait dans la vraie vie d'un chrétien d'aimer l'autre? Si on n'étudie pas la parole de Dieu, mes amis, on va se faire avoir avec des définitions du monde qui vont vous dire c'est quoi aimer. Aimer, c'est premier penser à toi avant les autres. C'est la première chose à l'entendre. Aime-toi toi-même. Sois en amour avec toi. Fais de toi une idole. Admire-toi. Tu es capable. Lâche pas, tu es capable. Des motivologues. Apprendre à s'aimer les uns les autres, ce n'est pas juste intellectuel. C'est de comprendre le sens profond des relations authentiques que Dieu veut pour les croyants. Entre nous et avec ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est une gymnastique qui est très difficile. Et il y a des nuances, il y a des manières de faire, il y a des informations dans la parole de Dieu qui nous aident à bien comprendre ça veut dire quoi vraiment aimer ça. Aimer quelqu'un au point de lui dire, mon frère, ma sœur, la manière que tu parles, la manière que tu penses, ça me dit aucunement que tu es un vrai chrétien. C'est d'aimer quelqu'un de dire ça. Guy Dupont m'a déjà dit que je puais de la bouche il y a bien des années. Hein, Guy, t'en rappelles-tu? Il est gentil. Je ne savais pas, moi. Dans ce temps-là, j'accueillais le monde dans le vieux bâtiment. Ça prend de l'amour, Guy, pour faire ça. Je t'aime, Guy.
Amen. Amen.
Merci, Guy. Puis, laissez-moi vous dire quelque chose. La manière qu'il l'a dit, là, c'était pas « Hey, gros puant, là, fais attention. » T'es délicat, avec un petit sourire. Et je ne sais pas, Michel, c'était dans la persouée, là. Je m'en rappelle encore, littéralement, tout ce qu'il a dit. Ça prend beaucoup d'amour, vivre ensemble. Parce que quand on se sent aimé, là, on peut entendre n'importe quoi sur notre personne. Parce que c'est la personne qui me l'a dit même. Pensez à ça. Vous voulez dire quelque chose à quelqu'un? Rassurez-vous avant de le dire que vous avez démontré que vous l'aimez vraiment. Vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est important. C'est une raison pour étudier la parole de Dieu. Apprendre à vivre en amour les uns avec les autres, à vivre en amour avec Dieu, avec Jésus-Christ, et avoir de l'amour pour les hommes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et là, c'est toute une affaire, ça. Comment aimer notre prochain? Dans la réalité de 2019, là. Comment aimer notre prochain? Comment aimer notre prochain qui sait sa morale, sa manière de vivre, sa perception du monde est complètement différente de la vôtre, de la nôtre? La lecture du monde que nous avons comme chrétiens, qu'on doit avoir comme chrétiens, est complètement opposée de la vision du monde, ce qu'il y a, the world view pour les Anglais, là. The world view de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. La manière de juger ou de discerner les choses est complètement différente, complètement différente. Et si on n'est pas équipé comme chrétien pour défendre notre foi que nous avons, on va se faire séduire, on va se faire attaquer, on va se faire ridiculiser. Et je remercie le Seigneur qu'il y a beaucoup d'informations aujourd'hui qui existent dans la poubelle que j'appelle Internet. Vérifiez vos sources, s'il vous plaît. C'est en 1990, à l'Université du Québec, j'ai assisté à une conférence d'un ingénieur en informatique. En 90, on est en 2019. Savez-vous ce qu'il m'a dit? Bien, il disait ça à tout le monde qui était là. Il dit, l'Internet, dans le futur, va être une poubelle. Pas des farces, une poubelle en 2019. Vérifiez vos sources lorsque vous lisez quelque chose. Quelqu'un me disait quelque chose un matin, là. J'ai dit à la personne, source primaire, source secondaire. Vérifie des sources, hein, Éric? Vérifie des sources. C'est important. Et ça, on apprend à aimer les autres. En tout cas, j'ai dévié un petit peu, là, mais c'est là. Mais il faut aimer quelqu'un pour dire, fais attention quand tu vas sur Internet. Crois pas tout ce que tu lis, tout ce que tu vois sur YouTube. Parce qu'on est désinformé aujourd'hui, mes amis. Vérifiez vos sources. Vérifiez vos sources primaires et secondaires pour être solidement attaché à la parole de Dieu. Alors, pourquoi étudier la parole de Dieu? Parce que vous connaissez la vérité. Et là, je retourne à mon postmodernisme. Et vous voyez mon image, là? Qu'est-ce qu'elle a, cette image-là? Chacun son chat. J'adore le mien. C'est un chat. Est-ce que la catchez-vous, celle-là? Faites tout signe de la tête, ça va me rassurer. La catchez-vous, le Joe? Hein? Chacun son chat. Est-ce qu'on est comme ça, nous autres? Parce que ça fait mon affaire, j'appelle ça un chat. Ça fait mon affaire, je dis que ça lui se perd. Ça fait mon affaire, moi, dire, tu n'as pas le droit d'être peigné sur le côté gauche. Ça fait mon affaire, moi, dire, tu n'as pas le droit de mettre des pantalons. Ça fait mon affaire, moi, dire, tu n'as pas le droit de mettre du rouge à lèvres. Ça fait mon affaire. Tu sais, on invente une sorte de pharisianisme parmi les chrétiens, des fois, qui nous emmène très, très loin. Fais attention, c'est la parole de Dieu qui décide de ces choses-là. C'est une parole qui est claire, mais ce qui arrive là-dedans, c'est que des gens arrivent, puis ils teurent les Écritures, ils sortent un mot de son contexte, et ils font toutes sortes de choses. Parce que vous connaissez la vérité, vous devez étudier la parole de Dieu. Vous devez lire la parole de Dieu, vous devez méditer la parole de Dieu. Mes amis, équipez-vous de cette arme qui est une épée tranchante à deux tranchants qui sépare le moelle et os, esprit et âme, qui juge les sentiments du cœur. Cette parole qui est une lampe à nos pieds, puis une lumière à 20 pieds. C'est ce que j'ai dit lorsque j'avais 8 ans. J'étais habillé comme un prophète. Je me rappellerai toujours. Hey, j'ai fait rire de moi là. Je me rappelle encore. J'entends encore les rires. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à 20 pieds. Elle l'a appris par cœur, ce verset-là, après. Hein? C'est important parce qu'on connaît la vérité, on est éclairé, puis on marche dans le sentier que le Seigneur éclaire. En deux mots, hein, les bottines suivent les babines. OK, cinquième raison. Là, il y a un reflet dans l'horloge, je ne vois pas l'heure. Il y a quelqu'un, je n'ai pas de montre. Il est 11 heures, OK, merci. Cinquième raison, à cause de ceux qui vous égarent. Avez-vous marqué mon petit dessin? Que vous voyez comme il faut? Mais des fois, on ne les voit pas. Ils sont tellement bien déguisés, là. Et la parole dans Acte 20 nous avertit. Hein? Il y a deux sortes d'hommes qui se lèvent dans l'Église. Ceux qui veulent des disciples et ceux, et les loups. Les loups qui cherchent à dévorer. Et la parole de Dieu nous a été écrite pour nous aider à discerner la vérité, à discerner les choses vraies. Alors, s'il arrive un loup déguisé en mouton, il commence à enseigner des doctrines anti-bibliques. On va le discerner. Mais si on n'a pas étudié la parole, on n'a pas réfléchi la parole, on n'a pas médité la parole, on ne le discernera pas. Et ça va être un gars extraordinaire. J'en ai vu au travers des années arriver, des gars arrivent avec des vieilles bibles comme la mienne ici, là. Et puis, il y a une belle grande barbe blanche, là. Puis là, ils ont des doctrines spéciales. Aujourd'hui, il est décédé, le monsieur. Tord les Écritures comme qu'il tordait les Écritures. Tu es obligé de l'avertir. Arrête de parler de ça. C'est pas dans la Bible. C'est dans ton imagination. C'est triste, ça. Ceux qui nous égarent, ceux qui veulent vous dire quoi manger, ils veulent vous dire comment vous habiller, quelle sorte de souliers porter, les choses que vous devez faire pour être des vrais chrétiens. Puis il y en a qui rajoutent, si vous ne faites pas ça, vous ne serez pas enlevé lors de la tribulation. C'est plein cet Internet, c'est plein, puis il y en avait dans le temps des années 70, j'en ai connu des gens comme ça. Des gens qui ont acheté une ferme à Champlain, puis ils ont dit, dans ma pauvre famille, ils ont dit, on s'en va à Champlain, on achète une ferme, on va vivre des produits naturels. Et puis nous autres, on va être des chrétiens comme dans les Actes, qui vendaient leurs maisons, on met tout en commun, tous nos salaires en commun. Puis on va vivre comme dans les Actes des apôtres, comme si qu'ils auraient embarqué d'une machine à reculer dans le temps, puis elle a reculé hein, au premier siècle. Mes amis, ceux qui nous égarent, ce n'est pas quelqu'un qui se lève le matin et qui dit « Le sang de Jésus-Christ ne nous a pas sauvés de tout péché. » Ce n'est pas quelqu'un qui dit ça qui nous égare. N'oubliez pas ça. Vous n'en faites pas peur, ce mot de doctrine-là. Hein? Avez-vous peur de ça? Vous autres? Vous en pensez? Vous n'avez pas peur de ça? Bon. Je ne parlerai pas de ceux qui n'ont pas avoir peur parce qu'il est trop tard. Mais il faut faire attention parce qu'on doit lire, on doit étudier, lire et méditer. Moi, je les mets en ordre de même. Étudier pourquoi? Parce que si tu étudies comme il faut, lorsque tu lis après régulièrement la parole de Dieu, tu l'as déjà compris ce que tu lis. Donc, tu peux la lire. Et lorsque tu médites, au moins tu médites quelque chose qui est vrai, qui a été réfléchi, qui est vraiment là. Si on part avec méditer seulement, alors vous allez prendre n'importe quoi dans la Bible, vous allez méditer n'importe quoi avec un contexte qui n'est pas là. Vous allez sortir un mot du verset, vous allez vous concentrer sur ce verset-là, mais ce n'est pas ça que ça dit. Voyez-vous, les textes ne disent pas ça. Alors c'est important d'étudier, lire et méditer. Sixième raison pour étudier la parole de Dieu. Pourquoi qu'on étudierait la parole de Dieu? Afin que nous ayons l'assurance. S'il y a quelque chose qui nous menace au travers de notre vie chrétienne, laissez-moi vous dire, c'est le doute. Le doute. J'ai eu des conversations avec des intellectuels à l'université. Là. J'ai sorti de là shaké. Il y a des argumentations là qu'il faut que tu y réfléchisses deux fois. Laissez-moi vous dire quelque chose, c'est que à quelque part, l'assurance de notre salut, l'assurance de notre relation avec Dieu. L'assurance que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Si vous n'avez pas été attaqué là-dessus encore, ça peut arriver un jour. Et c'est pour cela qu'on doit étudier comme il faut la parole de Dieu, pour être capable de se défendre et se protéger devant le doute, l'incertitude, l'ambiguïté. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, il y a un grand théologien qui était un défenseur de la Bible, aujourd'hui est rendu agnostique. Croit en Dieu, mais Dieu ne s'occupe pas de nos vies. Alors, la Bible nous donne ceci. Je vais prendre le temps de le faire, ça. Dans 1 Jean 2, 28, c'est l'assurance. C'est l'assurance et qu'à son avènement, c'est lorsqu'il va arriver, l'assurance du retour du Seigneur. Le Seigneur va revenir. Le Seigneur va venir nous chercher. C'est une assurance. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous attendez ça? Le père de Gaston Racine, c'est Gaston Racine qui me dit ça, le père de Gaston Racine me disait, il dit, la garde malade, quand son père est en train de décéder aux soins intensifs, la garde malade, elle disait, laissez-vous aller, M. Racine, laissez-vous aller. Il dit non, il dit, j'attends le retour du Seigneur. Le soin intensif. Ça m'a tout fait quelque chose, cette phrase-là. L'assurance devant Dieu. Vous savez, si on. La mauvaise manière de voir Dieu va déteindre sur la manière que vous allez vivre. Si vous pensez Dieu, c'est un Père Noël qui donne tout ce que vous voulez avoir, c'est un génie d'une lampe, là. Toute votre vie va être déteinte de ça. Si vous pensez que Dieu, c'est quelqu'un qui est obligé de vous donner tout ce que vous demandez parce que vous l'avez demandé, votre vie va déteindre de tout cela. Puis, à quelque part, cette assurance devant Dieu, c'est une assurance que ce que Dieu dit, c'est vrai, et on a l'assurance de ses promesses pour nous. Mais faisons-nous la différence entre une promesse pour Israël et une promesse pour l'Église? Faites-vous une différence entre une promesse faite à Satan et une promesse faite à un croyant? Il y a une promesse faite à Satan. Est-ce qu'on lit les psaumes? Est-ce que c'est des doctrines? Voyez-vous, à quelque part, il faut savoir que la parole de Dieu a été écrite dans une époque pour des gens. Il y a un genre littéraire. Et de plus en plus, les gens ont des outils aujourd'hui pour vérifier tout cela. Le quatrième, rapidement, l'assurance du jour du jugement. Hey! Allez-vous être jugé? Romains 8:1 nous dit quoi? Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais Corinthiens 5:10 nous dit aussi, nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Prenez pas Dieu pour un bouffon. Prenez pas Dieu pour un vieux papier à la barbe blanche comme François. La barbe blanche comme François. Prenez-les pas pour ça. Dieu, c'est un Dieu qu'un jour, on va rendre compte de toutes les paroles vaines qu'on aura dites. Ayons un profond respect, Angèle, un profond respect pour Dieu. C'est important. Mais la parole nous donne une assurance que nous avons la vie éternelle. Il y a 43 versets dans le Nouveau Testament qui dit que le salut ne se perd pas. Mais le salut est éternel pour celui qui a fait par la foi, seul, à accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. La quatrième, pour terminer, c'est l'assurance dans nos demandes, notre vie de prière. Lorsqu'on connaît Dieu, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, on voit que Dieu nous dit de prier. Dieu répond toujours aux prières. Oui, non, pas attends. Mais on veut tout entendre le oui. J'ai acheté un 649, Seigneur, fait que je gagne le 13 millions. M'a payé l'Assemblée. M'a payé des missionnaires. Puis m'a prendre les 6 millions qui restent pour aller à Las Vegas. Mais si on connaît Dieu, si on connaît ce fait que nous sommes en train de demander des choses à Dieu selon sa volonté, comme si Dieu lui-même le demanderait. Mais il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu de prier pour le salut de Satan? Hein? Vous ne priez pas pour le salut de Satan? Ah ben, quelle sorte de chrétien vous êtes? La parole a été écrite pour nous former, qu'on soit des adultes dans la foi, afin qu'on ne soit pas emporté tout vent, toute doctrine. La septième, pour terminer, mais c'est pas terminé vraiment, là, mais pour terminer les sept, pourquoi étudier la parole de Dieu? Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Le sceau, hein, vous avez été scellé. Et je l'ai parlé tout à l'heure, la perte du salut est une chose qui motive les chrétiens, certains chrétiens, qui les motivent à aller à l'Église, qui les motivent à donner le dîme, qui les motivent à faire des bonnes œuvres, qui les motivent la peur, pas par la foi, par la peur. Et c'est plein dans le monde évangélique. Et si vous n'êtes pas équipé pour vous coucher le soir et dire que je me réveille ou pas, je suis certain, certaine que ma place est auprès de Dieu à cause de Jésus-Christ seul. Par la foi seul, dans le sacrifice de Jésus seul, que nous sommes sauvés, c'est la grâce de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est tellement clair. Mais il y en a probablement quelqu'un ici qui ne comprend pas ce que je viens de dire. Ben oui, c'est clair pour vous qui le connaissez. C'est pour ça qu'il faut étudier la parole de Dieu, pour être équipé. Parce qu'on va vous accuser d'être des orgueilleux. Voyons, vous êtes qui vous autres pour dire que vous êtes sauvés? Vous prenez pour qui vous autres? Je me l'ai fait dire, ça plus qu'une fois. Mais cette affirmation n'est pas basée sur mes émotions, ne sont pas basées sur ma pensée, sont basées sur la parole de Dieu, la Bible. C'est la Bible qui a raison, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Maintenant, on va passer à pour qui? Bien, c'est pour ceux qui cherchent. Là, j'ai épluché le psaume 119, mais je n'ai pas pris tout parce que ça ne fonctionnerait pas, il y en avait trop. Sur 176 versets, il y a juste trois versets qu'on ne peut pas prendre pour mon contexte. Juste trois versets. Tout le reste, là, ils parlent tous de la parole de Dieu, de la sentence de Dieu, etc., etc. C'est écrit en hébreu avec l'alphabet hébreu, Aleph, en descendant. « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » Mais si on ne connaît pas les commandements de Dieu, comment est-ce qu'on peut rester dedans? J'ai reçu des téléphones, moi, des fois. Quelqu'un me demandait, « On a-tu le droit de prendre des pelules? J'ai-tu le droit de prendre une 6,49? J'ai-tu le droit de prendre une bouteille de bière? » Hein? « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » Où est notre plaisir? Où est notre cœur? Comme chrétien, mes amis, dites-vous une affaire. C'est un amour pour Dieu, un amour pour sa parole qui est un tout. Et c'est une relation que nous avons, pas une religion, une relation personnelle avec Dieu qui va au-delà du dimanche matin. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous mes yeux, mais comment avoir les sentiers de Dieu sous nos yeux si on n'étudie pas la parole de Dieu pour comprendre le sentier de Dieu? Ce n'est pas les échangeurs de Montréal qui est le sentier de Dieu. Le monde, parce qu'il montrait les zigzags, là. OK, je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Si je ne voulais pas oublier la parole de Dieu, j'en ai oublié un petit peu dans cet inset, mais si on ne veut pas l'oublier, mes amis, il faut la lire, il faut l'étudier, il faut la méditer. Je vous le dis, là, parce que la mémoire fonctionne comme un sillon. Hein? Plus qu'on lit quelque chose, plus qu'il rentre en sillon. Regardez ici, « Fais-moi comprendre la voix et tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. L'enseigne-moi, l'Éternel, la voix de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. » Comment je vais retenir ça jusqu'à la fin si je ne l'étudie pas, si je ne la lis pas, si je ne la médite pas? Voyez-vous l'idée dans cela? « Donne-moi de l'intelligence pour que je regarde ta loi et que j'observe de tout mon cœur. » N'ayez pas peur de la loi. La loi est saine, la loi est bonne, la loi vient de Dieu. Il faut, faut en faire un usage légitime de la loi, nous dit la parole. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Aimez ce que Dieu dit. Aimez ce que Dieu dit. Il y a une citation que je cherche, là. Toc, OK. On va toujours faire ce qu'on aime. Dites-moi où vous mettez votre argent, où vous mettez votre énergie, où vous mettez votre temps, on va vous dire ce que vous aimez le plus. C'est de même que ça marche. C'est ce qu'on aime. Et si on aime la parole, on va y mettre du temps, on va y mettre des énergies. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Est-ce qu'on aime vraiment la parole de Dieu? Est-ce qu'on aime vraiment, on a soif de qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu pense de ci ou cela que nous vivons dans notre société? Pour quand? C'est bien beau dire, pour qui? On a vu les pourquoi, on a sept raisons. Pour qui, pour quand? Pour quand, pour quand? Bien, voici ce que nous vous proposons. Une réflexion, une idée de génie, et puis une idée l'idée même. Là, vous allez travailler fort pour réfléchir. Septembre s'en vient. On est le 1er septembre. L'hiver arrive. Les vacances sont finies. C'est le bon temps d'étudier la parole de Dieu. N'est-ce pas? Hein? C'est-tu un bon temps, ça? Hein? On va être en cabané, là, puis la neige, tout ça. Donc, l'Assemblée chrétienne du Cap de Madeleine vous propose un programme de formation biblique. Parce que c'est une des responsabilités des responsables d'enseigner la parole de Dieu. Et une prédication le dimanche matin, c'est bien, c'est merveilleux. Mais quelque chose le dimanche soir, c'est encore mieux. Parce que ça en fait plus. Et c'est ce qu'on vous propose. Alors, on va vous donner tout à l'heure un dépliant comme cela. Puis je veux que ça soit dans la prière, puis réfléchi. Il y a de l'inscription derrière. Et vous allez voir que il y a les fameux cours que vous connaissez, la plupart d'entre vous, EBE, hein, module 1, module 2, module 3. On peut avoir cela. Il y a aussi d'autres cours qu'on veut vous proposer. Le combat de la connaissance de Dieu, les épîtres de Jean que j'aimerais donner cette année. J'avais fait l'Apocalypse l'autre année, puis là, je ne peux pas refaire l'Apocalypse. Certains m'ont demandé l'Apocalypse, mais ça, deux fois de fil, c'est trop. Fait que on va aller dans les épîtres de Jean cette année. Il y a les voyages missionnaires que Jean Lépine va nous donner aussi. La sécurité éternelle sur la perte du salut ou est-ce que le salut se perd. On va avoir un cours là-dessus, deux fois. Face au découragement, la dépression. Ces cours-là vous ont offert dans ce dépliant. Puis on aimerait que vous preniez un dépliant ce matin puis que vous priez, réfléchir et choisir une activité pour cet hiver. Nous vous proposons de débuter en octobre. Octobre, ça nous donne trois semaines pour y réfléchir. Alors, après l'action de grâce, Dieu voulant, le dimanche soir, de 18h30 à 19h30, ça va être les épîtres de Jean avec moi. Le dimanche soir, le voyage missionnaire avec Jean Lépine. On veut vraiment le temps le dimanche soir, donner du temps, on a du temps. Prendre une heure le dimanche soir pour venir ensemble pour une étude biblique. Les modules EBE, selon votre disponibilité, pour Jean Lépine, Michel Joannette, qui vont donner ces cours-là. On a des frères qui sont là, disponibles pour cela. Il y a d'autres cours que Stéphane Demers avait proposé il y a quelque temps. Il y a Jean Lépine, il y a moi aussi, il y a d'autres cours. Mais je vous finis avec pourquoi pas. Pourquoi pas? C'est beau, là, jouer avec vos iPads, là. Ça vient... Je sais, j'en ai un jeu que je pognais dessus dans cet site, là. C'est Wordscape, là. C'est faire des mots, là, avec des mots qui te donnent, là, comme des mots croisés, là. Et j'ai que pensé à ça l'autre jour. Cet été, j'ai passé pas mal de temps là-dessus. Là, je me suis dit, il n'y a pas question que je passe l'hiver là-dessus. Vous en pensez? Consacrer à l'Éternel quelques heures par semaine ou 15 jours, parce qu'on va formater ça selon vos disponibilités. Mais je vous encourage à prendre ça au sérieux. Pourquoi pas? Pourquoi pas faire de cette année, 2019, hein, 2020, une année où vous allez consacrer quelques heures à la parole de Dieu, quelques heures à étudier sérieusement, semaine après semaine, un enseignement systématique et non pas thématique, qui est différente un peu de ce qu'on voit le dimanche matin, mais quelque chose qui est là pour nous faire grandir dans le Seigneur. Je vais terminer avec une chanson. Non, fermez les portes. Lis ta Bible, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, et tu grandiras. Et tu grandiras. Alléluia. Lis ta Bible, prie chaque jour, et tu grandiras. Est-ce qu'on a besoin de grandir dans le Seigneur?
Oui.
Moi aussi. Monsieur...